Bienvenue à notre table ronde du Congrès Mission 2023 à Toulouse, dont le thème est « À la recherche du baptême perdu ». Autour de ce plateau, Vincent Morche, auteur de plusieurs livres, vous êtes éditeur chez MAM, dont Maxence Bertrand, prêtre de la communauté Saint-Martin et chapelain au sanctuaire de Lourdes. Vous êtes chargé de la pastorale des jeunes. Et Laurent Winsbach, vous êtes sophrologue et coach de vie. Vous intervenez en entreprise et auprès des particuliers sur les problématiques de gestion du stress et des émotions. Merci à vous trois d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Je vous souhaite aussi la bienvenue aux auditeurs de Radio Présence qui nous écoutent en direct. Alors, un sondage de la revue Mission qui a été publié en 2022 indique que 80% des Français sont baptisés, mais 76% vont à la messe le dimanche, se disent pratiquants. Alors, où sont donc passés ces baptisés? C'est le thème de notre table ronde. Vincent Morche et Laurent Winsbach, vous avez été tous deux baptisés enfants. Vincent, vous avez fait votre première communion, vous avez été confirmé et vous m'avez dit aller de façon épisodique à la messe avec vos parents. Et puis quant à vous, Laurent, vous n'avez reçu aucune éducation religieuse, vous êtes baptisé, je l'ai dit. Mais pour l'un et l'autre, il y a eu un déclic. Pour vous, Vincent Morche, c'était lors des Journées mondiales de la jeunesse à Cologne en 2005. Quelle parole de Benoît XVI vous a mis en chemin?
Bonjour à tous. Pour retracer un peu plus, voilà. Donc effectivement, moi, mes parents étaient pratiquants, mais très occasionnels. C'était vraiment que lors des grandes fêtes, Noël, Pâques, la Toussaint, qu'on allait à la messe. Donc voilà, moi, je faisais partie de la catégorie un peu sociologique des cathos, voilà, ponctuels. Mais je ne sais pas. C'est un des mystères de ma vie. Ça n'a pas empêché le fait que, au fond de moi, j'ai toujours cru en Dieu. Mais ça n'a pas nécessairement pris la forme d'une pratique des sacrements, participation à l'Eucharistie, pendant très longtemps. Certains moments même où... voilà, j'étais plutôt en colère contre l'Église, donc je pouvais plus voir un curé en peinture, pardonnez-moi mon père. mais malgré tout ça, ben voilà, à aucun moment je ne me suis dit, voilà, je crois plus en Dieu, je rejette le Christ, jamais. Et malgré tout, j'avais envie quand même de rester en lien avec l'Église. Alors, notamment, je suis passé par, à l'époque, j'étais à Nantes, par les focolaris de Nantes. Et c'est par leur intermédiaire que j'ai pu aller au JMJ de Cologne, on va dire, à la limite de la date de péremption. Déjà, enfin, l'ambiance entre nous était vraiment très fraternelle, c'était très sympa. On avait été à Dortmund avant, on a été accueillis par... c'est une petite digression, mais c'est vraiment très sympa, un petit couple de retraités allemands avec qui on parlait, eux ne parlaient pas français, nous on ne parlait pas allemand, on a baragouiné en anglais en parlant foot devant une bière et rien que ça, c'est partager quelque chose, quoi, parce qu'on était là, voilà, on était réunis quand même au nom du Christ de nous accueillir, nous, voilà. Et effectivement, ce qui m'a un peu retourné, c'est la veillée des JMJ de Cologne, donc avec Benoît XVI, qui a fait une méditation sur les rois mages, parce que voilà, à Cologne sont les reliques des rois mages. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est en fait le thème de sa méditation, c'est les rois mages vont adorer un roi. Devant quel roi vont-ils s'incliner? Il y a Hérode, qui représente le pouvoir temporel dans ce qu'il a de plus brutal, mais finalement de plus conforme à ce que spontanément on conçoit comme le pouvoir politique, le pouvoir de la coercition, le pouvoir de la force pour imposer son contrôle qui tend de plus en plus à devenir, c'est humain je crois, malheureusement de plus en plus total sur les gens, sur les personnes sur qui il s'exerce. voilà, on leur fait comprendre que ce n'est pas celui-là, le vrai roi. Et devant qui il s'incline devant un nouveau-né. Qu'il n'y a rien de plus fragile qu'un nouveau-né. Et ils reconnaissent voilà, ce pouvoir qui est le pouvoir de Dieu, qui est le vrai pouvoir de Dieu, qui est le pouvoir de l'amour, de la, qui s'offre sans protection. Et je vous invite vraiment, vous le retrouvez facilement sur Internet, cette recherche, vous recherchez Veillée de prière Benoît XVI, Jésus de Cologne, vous retrouvez, c'est un texte magnifique. Et là, je me suis dit, mais qui dans le monde dit ça aujourd'hui? Qui porte cette parole? Qu'est-ce qu'il y a de plus révolutionnaire, de plus fondamental, de plus radical que de dire que le pouvoir, vrai pouvoir, c'est représenté par un nouveau-né, par la fragilité, par ce don de l'amour qui se donne sans totalement. Et là, je me suis dit, mais c'est vraiment trop bête de passer à côté de ça. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, ben voilà, je vais retourner en paroisse régulièrement. Et pour la petite histoire, c'est grâce à ce retour en paroisse dans un groupe de jeunes professionnels que j'ai rencontré celle qui deviendrait ma femme. Et voilà, je suis marié, j'ai 3 enfants maintenant. Alors, aucun de mes fils ne s'appelle Benoît, mais ça aurait pu, parce que vraiment, voilà, il a joué un grand rôle. Malheureusement, je ne crois pas qu'il y ait de 4e. En plus, j'ai raté toutes mes opportunités. Mais voilà, vraiment, ça a été décisif dans ma vie.
Merci Vincent. Depuis ce moment fondateur, vous le disiez, vous êtes devenu ce qu'on appelle un catholique pratiquant. Voilà, vous êtes engagé en paroisse, vous êtes fidèle à la messe dominicale. Laurent Winsbach, vous avez effectué, vous, en 2012, une démarche de retour à l'Église, considérant, je vous cite, que le moment était venu de renouer avec la religion. Ce sont vos mots. Pour quelles raisons avez-vous fait ce pas? C'était quoi ce moment?
Alors, mon histoire, c'est que j'ai pris la création en pleine face grâce aux plantes sauvages et médicinales, en fait. En 2008, je suis tombé complètement amoureux de... Et je ne savais pas pourquoi. Hein. J'étais aimanté, je ne les connaissais pas, j'avais aucune culture botanique, rien. Et d'un seul coup, j'habitais dans l'Aveyron à l'époque, et quand au printemps 2008, elles ont commencé à sortir de terre, j'avais besoin de savoir qui elles étaient, à quoi est-ce qu'elles servaient. Et ça m'a conduit à faire une formation sur les plantes sauvages et médicinales. Et là, ben, j'ai découvert la création, en fait. Et c'est bien fait. Et donc, j'avais été baptisé enfant. Je n'avais pas reçu d'éducation religieuse du tout. Je voyais, en termes de conditionnement, je voyais plutôt l'Église comme l'opium du peuple, comme ça a pu être dit à une époque. Et donc, je n'avais pas d'affinité vraiment avec la religion, et encore moins peut-être avec celle dont j'étais issu en termes de baptême. Mais quand l'évidence m'est apparue que cette création avait nécessairement un créateur, ben, j'ai senti voilà, une flamme en moi, la flamme de la foi qui se réinstallait, et j'ai senti que j'avais besoin d'une réconciliation avec mes origines. Et que je ne pouvais plus justement être comme ça en bisbille. Alors désolé mon père, je vous prends encore à témoin comme Vincent, mais c'est vrai qu'il fut un temps où la soutane me faisait peur. J'y voyais un symbole comme une agression quelque part. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que je vis dans cette peur alors qu'à l'intérieur de cette soutane, il y a un être humain comme moi. Et que je peux entrer au contraire dans une relation fraternelle avec cet homme. Donc j'ai senti qu'il y avait quelque chose que j'avais moi à aller nettoyer, en fait, que j'avais moi à me soigner quelque part de ces a priori que je pouvais projeter sur l'Église, sur les hommes d'Église, que tant que je conservais ces a priori, je n'étais pas dans la fraternité qui pourtant était ce à quoi je me sentais appelé intérieurement. Et donc j'ai dit, bon, ben, je vais voir comment on fait. Est-ce que c'est possible? J'avais peur que le curé de foi qui allait me recevoir, à qui j'avais demandé un rendez-vous, j'avais peur qu'il me prenne pour un fou quand j'allais lui dire la vérité, c'est-à-dire que j'avais recontacté la foi grâce à la nature. Et il a eu une phrase extraordinaire, il m'a dit « Je suis toujours émerveillé par les voies que prend le Seigneur pour réussir à parvenir jusqu'à nos cœurs. »
C'est parti des petites plantes médicinales quand même.
C'est parti des petites plantes médicinales, mais moi, mes propres jugements faisaient que je croyais que j'allais être jugé par cet homme d'église. Et en fait, il ne m'a absolument pas jugé, au contraire, il était émerveillé. Il m'a parlé d'un évêque qu'il connaissait, qui lui aussi était très proche de la nature. Il avait des exemples aussi dans l'histoire, bien sûr, de l'Église, de saints ou d'hommes d'Église qui étaient restés très, très proches de la nature. Et donc, ça a été ma première surprise de me dire « Ah ben non, je ne suis pas jugé, en fait ». Et ça m'a fait miroir de mes propres jugements que j'avais moi avant. Et donc j'ai eu besoin effectivement de cette réconciliation. Donc il m'a proposé un parcours que j'ai suivi avec beaucoup de plaisir. Et donc en 2013, effectivement, j'ai fait ma confirmation qui correspondait pour moi à un deuxième baptême. Un baptême qui cette fois-ci était conscient et consentant, puisque celui que j'avais reçu étant enfant était plus, je dirais, culturel. Je pense que mes parents, ils avaient fait ça pour avoir la paix au niveau de ma famille.
Pour faire plaisir à la grand-mère.
Ils n'avaient pas eu envie d'aller plus loin. Voilà. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé pour moi.
Vincent Morche et Laurent Winsbach, vous avez tous les deux ce point commun d'une image de l'Église qui... Enfin, vous aviez en tout cas une image de l'Église qui n'est pas celle que vous avez découverte après. Dont Maxence Bertrand, vous êtes, vous, à Lourdes et vous avez beaucoup de... Enfin, vous discutez, vous rencontrez beaucoup de personnes qui viennent spontanément dans ce sanctuaire. Est-ce qu'ils vous disent... Est-ce qu'ils ont cette même image de l'Église ?
On est à la frontière de l'objectif et du subjectif. On est vraiment sur du témoignage très personnel. Ce qui est vrai, c'est qu'à Lourdes, d'une manière très particulière, ça m'a marqué en arrivant. Ça fait 3 ans que j'y suis maintenant, ma 3e année. Et j'étais très marqué pendant les confessions, dans les célébrations, dans les rencontres avec les pèlerins qui me demandent des bénédictions de leurs étés, etc. De voir le nombre de fidèles qui venaient à Lourdes se confesser, communier, prier à la grotte, et qui n'appartenaient à aucune communauté paroissiale.
Ils venaient seuls.
Ils venaient seuls. En fait, souvent même, c'est impressionnant, je suis impressionné de voir le nombre de personnes qui suivent quotidiennement le chapelet par les réseaux sociaux, ou par KTO, ou par le TV Lourdes.
Ou par Radio Présence.
Ou par Radio Présence. et qui se sentent appartenir à un réseau de prières invisible, mais qui ne viennent pas dans une paroisse. Et en fait, je me suis dit, et de fait, si on les interroge, l'Église comme institution, c'est un peu non, mais l'Église comme mère, c'est à Lourdes, c'est oui, et de grand cœur. Et ils se sentent, et même ils viennent parfois chaque année, en fait, ils viennent, en plus, pas seulement pour faire leur dévotion privée, parce qu'ils viennent à la messe et ils viennent se confesser en grand nombre, en fait. Et donc, de fait, c'est l'histoire de l'Église, c'est l'histoire de notre société, puis après c'est l'histoire de chaque personne. Alors c'est compliqué de ne pas faire de confusion et de loi générale entre les trois, mais c'est une vraie réalité. C'est une vraie réalité, et je pense qu'en effet à Lourdes, il y a une dimension de l'Église qui apparaît comme maternelle, comme mariale, qui je pense est très signifiante, enfin en tout cas qui marque beaucoup aujourd'hui, oui.
Laurent Winsbach, vous le disiez, vous avez été confirmé en 2013. Et vous me le disiez en préparant cette table ronde, vous êtes rentré dans la case des pratiquants. Et puis après, il y a eu la crise Covid, les mesures sanitaires, et ça vous a fait éloigner de l'Église. Qu'est-ce qui a cloché à ce moment-là ?
La distanciation sociale. Mon retour à l'Église était provoqué par l'envie... d'être au plus près de mes sœurs et de mes frères en humanité. En fait, c'est cette horizontalité-là du cœur. Moi, j'avais une verticalité avec le Seigneur et je sentais que j'avais besoin de travailler cette horizontalité, ouvrir mon cœur à l'autre. Et là, d'un seul coup, l'autre, il fallait que je m'en éloigne, que je respecte une distance sociale avec un masque. Et j'imaginais Jésus qui, lui, touchait les lépreux. Je ne le voyais pas mettre un masque, en fait. La cérémonie était censée se dérouler, mais sans possibilité de communier. Donc, ça m'a fait perdre le sens, en fait. Et ça m'a mis en quête d'une autre forme de pratique, plus personnelle, puisque, notamment au début, il n'y avait plus du tout de messe. Et puis après, il y a eu la messe dans ces conditions avec distanciation sociale. Donc, j'ai dû me débrouiller et j'ai dû réussir à trouver une autre forme de pratique qui finalement m'a fait, je dirais, évoluer spirituellement, puisque auparavant, je me satisfaisais quelque part de cette messe dominicale, j'étais rentré dans la case des pratiquants, mais du coup, du lundi au samedi, je retrouvais ma vie quelque part matérialiste. Et oui, bien sûr que je pensais au Seigneur de temps en temps, mais il n'était pas forcément aussi présent qu'il pouvait l'être le dimanche matin. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose de, d'absurde là-dedans. Puisque je crois, puisque je sens, au-delà de ce que ma rationalité ne comprend pas, puisque je sens cette présence divine partout autour de moi, pourquoi est-ce que je ne la vis pas au quotidien ? Et donc, j'ai mis en place un certain nombre de pratiques pour davantage ressentir cette présence du divin. Et finalement, du coup, c'est vrai que j'ai moins eu besoin d'être à la messe dominicale, même si je ne m'en suis pas éloigné, comment dirais-je, ce n'est pas que je n'ai plus envie d'y être, mais c'est que je ressens moins forcément l'appel de ce rendez-vous du dimanche matin, parce que je réponds davantage, me semble-t-il, à l'appel du Seigneur au quotidien.
Et pourtant, vous disiez que justement, ces mesures sanitaires vous avaient privé de cette dimension de la communauté.
Tout à fait. Et je l'ai trouvé autrement aussi. C'est-à-dire que je peux avoir un côté un petit peu ours, on va dire. J'aime bien ma tranquillité, j'apprécie beaucoup la solitude. Et donc, je sais que j'ai besoin d'aller vers l'autre pour m'équilibrer. Mais si on regarde bien, la vie quotidienne nous donne mille et une façons d'aller vers l'autre. Et ce à quoi nous invite le Christ, me semble-t-il, c'est dans les évangiles de ne pas aller que vers l'autre parce qu'il appartient, comme nous, aux brebis d'Israël, mais au contraire, d'aller vers tout autre. Et donc, voilà, j'ai continué cette démarche d'horizontalité, mais plus forcément au sein de l'Église. Avant, je m'en satisfaisais, ça me suffisait.
Vous cochez la case.
Oui, voilà. Et là, maintenant, c'est plus n'importe, je dirais, tout autre qui vient en rencontre ou à la rencontre duquel je vais, va me donner cette opportunité de travailler cette dimension-là chez moi.
Vincent Morche, vous avez dit tout à l'heure, j'ai toujours cru en Dieu. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Qu'est-ce qui vous mettait en lien, en fait, avec Dieu alors que vous n'étiez pas dans les églises ?
Je ne saurais décrire ça que comme une forme de lumière intérieure, de joie, une joie de vivre, une expérience de la joie d'exister, et par le fait que finalement, je ne sais pas pourquoi, mais cette joie, ça a finalement été un guide pour moi. Dans les grandes décisions de ma vie, j'ai senti que quand je me sentais avec cette joie, cette forme de douce lumière, ça marchait bien. Et que quand je forçais la décision en allant contre, en faisant violence, en disant bon, je vais quand même le faire alors que en fait je le sens pas, ça marchait pas. Une espèce voilà de guide intérieur. Et ce qui était troublant pour moi, c'est que cette lumière-là, cette douce chaleur, je la mettais pas en lien avec l'expérience des sacrements. Plus tard, j'ai pu assister à des cérémonies qui me touchaient où je sentais ça, mais quand j'étais enfant et jeune adulte, c'était très très rare. Et c'est que plus tard, voilà, que j'ai fait le lien, que je me suis dit, finalement, c'était sans doute des petits cailloux, c'était un don. C'était le Seigneur qui tout doucement me prenait, voilà, me disait, voilà le chemin de la vie, le chemin de la lumière. Et le lien n'a été fait que plus tard. Donc voilà, pour raccrocher avec la problématique, ça, pour moi, j'interprète ça quand on m'évoque les personnes qui ne pratiquent pas, qui sont baptisées, ça, je me dis c'est pas parce qu'ils pratiquent pas tout le temps que le Seigneur leur parle pas, et que c'est une question de temps aussi, c'est une question d'évolution de la personne. Il y a aussi des saisons dans la vie. Il y a des moments où ça va, c'est la lumière, et d'autres, c'est la désolation. Et puis encore, il y a des cas encore plus tragiques et mystérieux, des gens dont on a l'impression que la vie n'est qu'une désolation. Bref, mais pourtant, voilà, le Christ est là. Alors, en tant que chrétiens qui avons à cœur d'annoncer le Christ, peut-être, enfin c'est une piste que je suggère, peut-être que le travail, en étant toujours dans la délicatesse, c'est d'essayer de dire, ben voilà, connecte les deux ordres, quoi, les deux points, fais ta bijonction.
Raccroche les chaînons.
Voilà. Après, voilà, il faut pas, enfin, je pense hein, qu'il faut pas arriver voilà, avec les gros sabots, tout ça, mais témoigner, je pense simplement, et puis accepter, voilà, que oui, Dieu prend son temps. Et quand on y réfléchit, voilà, toute la Bible, ça dure des siècles et des siècles. La pédagogie de Dieu, c'est quelque chose. On part d'une petite tribu perdue en Mésopotamie qui avait voilà, des cultes idolâtriques comme tout le monde au Christ. Et ça prend des siècles et des siècles. Donc dans la vie individuelle, je pense que ça arrive souvent.
Mmh. Voilà. Don Maxence Bertrand, comment faire ce lien entre ce qu'on entend souvent, l'urgence de la mission et la nécessité que tous les hommes connaissent Dieu et parviennent à la vie éternelle. Et à côté de ça, cette pédagogie de Dieu, le fait que Dieu prenne son temps, et comment on peut trouver cet équilibre ?
Il y a un sujet, il me semble, c'est qu'il faut peut-être d'abord nous-mêmes convertir un peu notre regard. Ceux qui ont une expérience de Dieu, ce n'est pas seulement ceux qui participent à la messe dominicale, en fait. C'est-à-dire, c'est un petit sujet, il y a une personne qui s'appelle Valérie Le Chevalier qui a écrit un petit livre sur ces fidèles qui ne pratiquent pas assez. Et alors, je ne partage pas toutes les intuitions, mais je partage vraiment le constat, en tout cas de départ, très fortement, où elle dit, au XXe siècle, on a fait des grandes enquêtes sociologiques, en particulier avec le chanoine Boulard, etc. Bon, historiquement, c'est intéressant, pour recenser les fidèles qui pratiquaient à la messe dimanche et suivre l'évolution des chiffres, on va dire. Et du coup, peu à peu, peut-être un peu inconsciemment, mais on s'est mis un peu à se dire que les chrétiens, c'était ceux qui participaient à la messe dominicale. Et en fait, il y a des réflexes qu'on s'est mis à prendre comme ça, en particulier parfois chez les prêtres et chez les fidèles, où on commençait à se dire, ouais, mais alors bon, il y en a qui viennent que quatre fois à la messe par an, à Noël, à la Toussaint, au Rameau, etc. Et avoir un regard sur eux un peu dépréciatif ou un peu négatif, en disant, ils viennent chercher leur gris-gris, etc. Machin. En fait, le premier sacrement qu'on reçoit, celui qui nous rend frères et sœurs en humanité et dans l'Église, c'est le baptême. Et donc, ce qui fait un chrétien, c'est le baptême. Évidemment, l'Eucharistie, c'est pas moi qui dirais le contraire, mais c'est la source et le sommet de la vie de l'Église. Mais entre la source et le sommet, il y a quand même un très long itinéraire qui demande du temps. Et il me semble une autre problématique, c'est que ça demande beaucoup d'espace, en fait. C'est-à-dire que notre vie chrétienne, elle s'incarne par notre vie sacramentelle et par la communauté chrétienne. Mais elle s'incarne aussi dans des lieux, dans notre recherche de conscience personnelle, dans tout ce qui se passe dans notre conscience, dans notre âme. Ça passe aussi par des lieux qui sont profanes, on va dire, et qui doivent être élevés par la foi. J'ai une autre réflexion qui me paraît prophétique pour le XXIe siècle, c'est celle du cardinal Danielou, qui disait en 1965, donc c'est quand même très, très, il y a quelques temps, il disait... J'envisage avec une grande inquiétude le fait que l'Église se désintéresse des sphères temporelles, de la nature, de la culture, de l'art, du sport, etc. Et il dit on est en train d'envisager une relation dualiste, une relation de presque de controverse, enfin d'adversité, entre ce qui est chrétien et ce qui ne l'est pas. Et il dit l'Église n'a jamais fonctionné en termes de christianisme, de foi et de ce qui ne l'est pas. Et ça n'a jamais été en deux termes, ça a toujours été en trois termes. C'est-à-dire, il y a la foi, il y a l'athéisme qu'il faut combattre, qu'il faut discuter, combattre au sens noble du terme, il faut discuter, il faut comprendre la logique de l'athéisme, etc. Tant intellectuel que l'athéisme pratique qui fait que je vis contre Dieu d'une certaine manière. Mais il y a une troisième réalité qui est celle du paganisme. Et le mot paganisme, c'est un mot positif, enfin c'est un mot neutre en tout cas. C'est les réalités profanes. Donc c'est le rapport à la nature, c'est le rapport à la culture, c'est le rapport à la politique, c'est le rapport au sport, c'est le rapport au corps, c'est le rapport à la psychologie, etc. etc. Et Danielou dit, dans l'Église, on n'a jamais combattu le paganisme. On y est descendu, on s'y est incarné, à l'exemple du Christ, et après on l'a assompté, on l'a élevé dans la foi. Ils disent, on a fait ça avec les basiliques au début, on a fait ça avec la nature aussi. C'est-à-dire, on est rentré dans cette compréhension du monde naturel. On ne s'y est pas enfermé, mais on l'a élevé, on l'a verticalisé de l'intérieur, je dirais, en le présentant à Dieu. Et ce n'est pas du tout le même mouvement. Et il dit, je trouve que c'est prophétique, vraiment, il dit, j'envisage avec inquiétude le fait qu'on considère ces réalités naturelles comme de l'athéisme à combattre. Et donc, du coup, on se retrouve avec des communautés où il y a ma vie chrétienne, ce que vous disiez, il y a ma vie chrétienne le dimanche matin, et puis toutes les réalités profanes. Voilà. Et en fait, il me semble que dans l'ordre de la vie baptismale, si on considère que ce qui fait un chrétien, c'est pas seulement la messe du dimanche, c'est le baptême, en fait, mon baptême, il est appelé à se déployer dans mon rapport à la création, dans mon rapport à l'art, dans mon rapport à la culture, au travail, au monde professionnel, toute la doctrine sociale de l'Église, etc. Et voilà, il me semble qu'il y a un champ énorme là, en disant qu'on est missionnaire en étant évangélique dans sa façon de vivre son travail, de vivre son rapport à la terre, à la création, etc.
Alors vous répondez exactement à la question qui m'a été envoyée dans la salle, qui vous est adressée, Laurent Winsbach. Comment pouvez-vous transmettre le Christ en tant que missionnaire sans bénéficier de la présence du Dieu vivant dans l'Eucharistie ?
C'est une bonne question. Alors c'est une réponse très personnelle, très subjective, hein, forcément. Je me sens aujourd'hui, avec la pratique que j'ai aujourd'hui, plus fidèle du Christ que je ne l'étais il y a quelques années, en fait. Je me sens touché au quotidien par sa présence, et c'est vrai que je ne la cantonne plus, finalement, à l'Eucharistie, au tabernacle. Bien sûr que je sens cette puissance à cet endroit-là, je ne l'ai pas délocalisé en disant elle n'y est pas, mais c'est plutôt qu'elle rayonne et que pour moi elle est partout. Et si Dieu nous a fait à son image, il est à l'intérieur de nous, en fait. Et je me suis rendu compte de plus en plus que c'est très personnel, encore une fois, hein, je ne veux pas paraître donneur de leçons, c'est mon histoire personnelle, mais je me sens plus en accord avec le Christ quand je donne que quand je reçois. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui m'est demandé par le Christ, c'est de donner cet amour, d'incarner au quotidien que je suis en train d'appliquer sa parole, mais en donnant, pas en recevant. Et finalement, je sais bien que c'était ma manière à moi peut-être de pratiquer, et je ne dis pas que c'est celle des autres, mais j'étais peut-être rentré, lorsque j'étais plus pratiquant, dans une logique de « je vais aller recevoir l'Eucharistie ». Et donc je vais prendre quelque part. Et aujourd'hui, maintenant que je donne, j'ai l'impression de plus incarner ce Dieu vivant, même si c'est vrai que factuellement, au quotidien, enfin en tout cas semaine après semaine, je le reçois peut-être moins, mais en donnant, je le reçois. Et toute mon expérience de vie me montre que cette attitude-là, à l'intérieur de moi, elle résonne comme étant plus vraie, en tout cas plus harmonieuse par rapport à la parole du Christ qu'auparavant.
Alors, donc, Bertrand, vous disiez la messe source et sommet de la vie chrétienne. Laurent, vous dites, je donne plus que j'ai besoin de plus donner, ça me ressource plutôt que de recevoir. Et pourtant, vous, Vincent Morche, vous êtes revenu à la pratique dominicale. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Est-ce que vous êtes dans cette logique de réception et de donation ?
Honnêtement, j'ai pas le sentiment que ça ait radicalement bouleversé ma vie. Je sais que à l'heure actuelle, voilà, j'ai des enfants qui sont petits. C'est en fait ma vraie entre guillemets parenthèse psy, parce que au quotidien c'est un peu compliqué. Donc ça c'est bien. Ce que je veux dire aussi, c'est que la grâce de Dieu, on la reçoit de façon qui n'est pas sensible souvent. On ne sait pas ce que Dieu fait en nous. L'analogie que je prends, c'est un peu c'est celle de l'incarnation. C'est un enfant qui grandit dans le sein de sa mère pendant des semaines, des mois, il ne le sent pas. Quand il est tout petit, on ne sent pas ce qui se passe. Et je crois que Dieu s'incarne en nous aussi dans le silence. Et que c'est au bout d'un certain temps, à un moment où on n'y pense même plus, peut-être que c'est même un moment où on ne pratique plus, eh ben voilà, on se rend compte que quelque chose a changé, qu'on est plus ajusté aux gens, qu'on est peut-être plus chrétien dans notre attitude que l'être même au moment où on pratiquait. Ce que je veux dire par là, c'est que mon expérience me tente à penser qu'il faut vraiment faire confiance en la grâce, qu'on ne sait pas comment Dieu agit par nous, on ne sait pas comment il agit en nous, et que ces transformations extrêmement intimes, voilà, nous-mêmes, on peut être mal à un moment, et en fait Dieu est en nous et travaille en nous, et nous transforme. Donc voilà, pour répondre précisément à votre question, aujourd'hui je ne sens pas particulièrement changé et bouleversé par ma pratique, mais je suis certain qu'en réalité, voilà, il se passe quelque chose. Comment ça se manifestera, je ne sais pas.
Dans Maxence Bertrand, vous avez parlé du paganisme, de l'athéisme et du christianisme. Comment le baptême peut-il se déployer s'il n'est pas nourri ?
Il doit être nourri.
Il doit être nourri.
Après, de quelle manière ? Les voies du Seigneur sont nombreuses. Et les pères de l'Église parlent des deux livres de la révélation, le livre de la nature, de la création, et le livre de la parole de Dieu. Alors comment il se nourrit dans la vie de chacun, je pense que c'est un peu différent. Ce qui me semble quand même, c'est que dans cette problématique entre la participation à la vie sacramentelle de l'Église, on va dire, il y a évidemment l'objet d'une réception. Je reçois la grâce et en effet, elle travaille en deçà de ma sensibilité et même en deçà de l'intelligence que je peux en avoir. Ça me paraît très vrai. Je dirais aussi qu'il y a une autre dimension. Il y a deux autres choses qui marquent dans cette vie-là. C'est d'abord le fait qu'on a une conscience, mais ce n'est pas un reproche, on est dans notre siècle, mais on a une conscience assez individualiste de notre rapport au sacrement. Et qu'en réalité, il y a aussi une dimension où, dans l'Eucharistie, le Christ vient s'offrir au Père avec l'humanité entière et aussi avec la création en travail de renouvellement intérieur. Et c'est exprimé en particulier dans la quatrième prière eucharistique où on parle de cette création tout entière qui est impactée par l'Eucharistie. Donc il y a une espèce d'offrande de peuple, presque plus que d'offrande personnelle, d'offrande de peuple. Et puis, une autre chose qui me marque aussi, c'est qu'on est dans une société où on parle beaucoup du rapport à l'altérité. Je te respecte, je me respecte, tu as le droit de penser ce que je veux, etc. Et c'est heureux. Mais je constate qu'on est moins sensible à l'altérité du mystère de Dieu et à ce qu'on lui doit aussi. Alors c'est un peu vieux jeu, mais j'aime beaucoup chez saint Thomas d'Aquin la vertu de religion, où il dit, en fait, j'ai reçu de Dieu. Et dans la liturgie, dans la participation à la messe, mais pas seulement, dans la participation à la prière, il y a presque... Évidemment, je vais prier pour recevoir la grâce de Dieu, mais en fait, c'est aussi une manière de lui rendre un culte, parce que j'ai tout reçu de lui, et en fait, c'est juste, vous voyez. Et la prière, même saint Thomas, c'est bizarre, mais saint Thomas, il dit la prière, il la travaille dans la vertu de justice, pas dans la vertu de charité. Évidemment, ça va conduire à une charité entre Dieu et moi. Mais en fait, il y a aussi une forme de justice. Je dois rendre honneur à mes parents pour le don de la vie que j'ai reçu, pour l'éducation qu'ils m'ont donnée, etc. Et il y a une certaine forme de manière où je me dis, on a aussi une forme de devoir, mais ce n'est pas un devoir d'aliénation, mais c'est un devoir de justice et d'amour envers Dieu. Et je trouve qu'il y a dans la messe, il y a aussi le fait d'offrir au Père le sacrifice du Fils, en fait, la vie du Christ, qui attire toute l'humanité. Et moi, comme prêtre, c'est un peu comme ça que je vis aussi la messe, de dire, bien sûr, j'essaie d'être uni au Christ intérieurement dans ma vie de prière personnelle, mais j'ai le sentiment que ça me dépasse très largement. Enfin, c'est une question pour l'humanité, en fait. Voilà.
Une réflexion de la salle, fidèle à la messe, parfois sans rien ressentir, mais persuadé que c'est bon, d'autrefois en y vivant une expérience extraordinaire, mais je trouve toujours Dieu dans la création et en tout homme. C'est justement ce que vous disiez, Laurent Winsbach.
Oui, je crois que le quotidien peut être une forme de célébration, un lieu d'émerveillement et de gratitude par rapport justement à tout ce qu'on reçoit. Moi, j'avais besoin d'être mis à ma place, justement. Je crois qu'à un moment donné, mon ego avait un peu pris le dessus je me prenais pour ce que je n'étais pas. J'ai eu besoin à un moment donné, effectivement, de me remettre à ma place au milieu de mes frères et sœurs dans l'Église. Et après, j'ai pris un chemin qui fait que je cherche aujourd'hui à avoir cette juste place, ni trop basse, pas me rabaisser, ni trop haute. L'un comme l'autre, pour moi, c'est des manifestations de l'ego, en fait, si je me dévalorise ou si je me raconte que je suis extraordinaire, etc. Et trouver cette juste place, elle se fait de cœur à cœur. Et pour moi, ça se joue au quotidien avec mes enfants, avec ma compagne, avec les personnes que j'accompagne dans mon travail, avec l'inconnu que je vais croiser. C'est permanent parce que ce que j'ai fini par réaliser, c'est que avant, je cultivais en moi une espèce de connexion intermittente au Seigneur. C'est-à-dire que c'est comme si, au moment où j'y pensais, c'était moi qui avais la faculté de le faire exister. J'y pense, donc il existe. Je me suis rendu compte finalement de l'absurdité de cette façon de fonctionner. Et non, si, puisqu'il est là, c'est pas s'il est là, puisque ma foi me dit il est là. Puisqu'il est là, il est là maintenant, il est là dans l'heure qui vient, il était là il y a une heure, il est là en permanence, il est en l'autre, il est en chacun d'entre nous. Donc, mon travail à moi aujourd'hui, je le sais, c'est d'aller vers cette conscience, parce que j'ai tendance à l'oublier. J'ai tendance à être amnésique de Dieu et j'ai besoin de me réveiller régulièrement. Et finalement, chaque occasion est devenue une occasion de me réveiller et de me dire oh, le divin est juste là, il est déjà là. Il n'y a pas à l'attendre, il n'y a pas à l'espérer, il est là. Il y a juste à m'en souvenir. Et comme je suis un grand amnésique, eh ben, chacun autour de moi m'offre l'opportunité de me souvenir de cela.
Vincent Morche, pour rebondir sur ce que disait Don Maxence à propos de cette dimension de la gratitude en venant, en participant à l'Eucharistie, en étant aussi offrande, en s'associant à l'offrande de Jésus sur l'autel, est-ce que vous voyez la messe comme cette gratitude?
Moi, ce que je trouve, ce qui m'a vraiment touché dans ce que vous avez dit, c'est le rappel que c'est de la dimension communautaire. L'Église est un corps, et je crois que dans notre époque individualiste, on a trop tendance à s'imaginer le salut comme quelque chose d'individuel. On se sauve par l'autre, on se sauve avec l'autre, on se sauve aussi pour l'autre, quelque part. C'est toujours, c'est jamais, je pense, un face-à-face, moi et l'absolu, mais en fait, on est toujours trois. Je me disais en venant ici, mais voilà, c'est peut-être simplement pour ça que le Christ a dit à ses disciples, allez par deux, allez deux par deux, annoncer la bonne nouvelle, enfin, guérir les malades, etc. Il y a toujours un autre à côté de moi. Et je crois que c'est quelque chose qu'on oublie trop et que en tant que, je sais pas, je me disais aussi en tant que missionnaire, quel est l'objectif, quelle est la finalité de la mission? C'est d'annoncer le salut, de participer au salut du monde. Participer au salut du monde, je pense que c'est d'abord... Je parle sous votre bienveillante. Participer au salut du monde, c'est pas d'abord participer à mon salut, c'est participer au salut de mon frère. Et qu'est-ce que c'est le salut de mon frère? Peut-être, c'est de l'arracher au pouvoir de la mort. C'est de le libérer des chaînes de la mort. C'est-à-dire très concrètement, le moment où sera venu pour lui, au moment où il rendra son dernier souffle, qu'il sache reconnaître le Christ et qu'il sache accueillir sa présence. Ça, c'est un mystère. On ne saura jamais comment ça sera passé pour n'importe lequel d'entre nous. On ne saura jamais non plus qui aura participé à ça. Mais peut-être que c'est lors d'une balade en forêt, en allant avec des amis montrer... les merveilles de la nature et des plantes médicinales, que le sujet de la conversation ayant dévié sur la beauté, sur l'absolu, sur Dieu, cette personne a été touchée par la belle façon dont quelqu'un parlait de Dieu, dans la façon dont il aimait Dieu, et que ça aurait été un petit déclic pour elle, sans que nécessairement elle aille très souvent à la messe, voire peut-être pas, mais peut-être une amorce qui permettra de faire entrer quelque chose un peu de la grâce dans sa vie, et qui lui permettra de reconnaître le Christ au moment ultime de son existence. C'est toi l'amour. Et dans la reconnaissance de cet amour, eh ben voilà, c'est l'ouverture vers la vie éternelle. Alors, je ne réponds pas à votre question. Je suis désolé. voilà.
C'est pas grave. Donc, Maxence, vous vouliez rebondir sur ce que disait Vincent Morche.
Ce que je retiens en particulier, c'est que, bon, d'abord, la question de l'assistance à la messe dominicale, c'est déjà présent chez saint Paul, qui se lamente qu'on déserte les assemblées. C'est présent chez tous les pères de l'Église, donc c'est quand même juste pas une question nouvelle du tout. C'est très ancien. Ce qui est nouveau, je pense, c'est qu'on, encore une fois, c'est qu'on identifie la communauté chrétienne comme exclusivement celle qui participe à la messe dominicale. Moi, ce que je retiens aussi de votre témoignage, Laurence, c'est qu'on a besoin de réunifier notre vie chrétienne sacramentelle avec le reste de la vie. Et autant, je le disais tout à l'heure, il y a une dimension ascendante dans la dimension du culte, où je trouve qu'on rend honneur à Dieu, on rentre aussi dans son désir, dans sa volonté, dans celui de l'Église, etc. Donc il y a une dimension qui est ascendante et qui est à honorer, me semble-t-il. Et il y a aussi une dimension descendante où, pareil, saint Thomas dit ça, pour moi c'est un critère hyper décisif, il dit en fait, dans la croix, par le sacrifice du Christ, le salut du monde est acquis, mais tout reste à répandre. Tout a été donné à la croix, mais il faut que dans l'espace et dans le temps, on répande les fruits de ce sacrifice d'amour. Tout a été donné, mais tout reste à répandre. Et dans cette expansion des fruits de l'amour du Christ donné sur la croix, c'est vrai dans le temps, dans l'évangélisation, et c'est aussi vrai dans l'espace. Et je pense à plein de dimensions, alors peut-être qu'elles sont à réinventer aujourd'hui dans la piété populaire, mais je pense à plein d'expressions de la foi qui visaient à répandre en fait cette grâce, toutes les processions du Saint-Sacrement, toutes ces bénédictions, toutes ces prières de rogation. En fait, il y a quand même beaucoup de choses qui ont trait à l'Eucharistie, en fait, qui sont presque un débordement de la vie sacramentelle dans l'espace, dans le temps. Toutes ces bénédictions par corps de métier, alors il y a des choses qui reviennent, puis on crée d'autres choses, les bénédictions des cartables, on ne sait plus, on invente plein de choses maintenant.
Des troupeaux.
Peut-être qu'il y a des choses à innover, en fait, et puis l'Église nous en donne largement la possibilité et la liberté, mais il me semble qu'il y a une chose aussi, un travail d'expansion qui ne se contient pas, pardonnez-moi l'expression qui n'est pas très belle, mais qui ne se contient pas dans la messe dominicale ou dans le culte. Enfin, voilà. Je trouve qu'il y a un double mouvement et ascendant et puis descendant qu'il faut honorer. Et là, on a toute l'ingéniosité possible devant nous. On peut être inventif. Et peut-être qu'il y a des choses à créer, des ponts à créer justement entre. On parle beaucoup de la nature parce que vous avez embrayé là-dessus, c'est votre histoire aussi. Mais il y a aussi la dimension du monde professionnel, du monde du sport, du monde de la culture, de l'art, du travail, de la lecture, de l'étude intellectuelle. Enfin.
Laurent.
Oui, j'ai envie de dire que le rendez-vous qu'on est en train de vivre ensemble va dans ce sens, puisque certes, moi, je suis dans une phase d'éloignement, mais ce n'est peut-être qu'une saison. mais nous sommes là ensemble. Et cet appel à être là ensemble ce matin, nous y avons répondu, quels que soient nos parcours respectifs. Et j'ai l'impression, c'est ce que je ressens, je vais parler que pour moi, mais j'ai l'impression que c'est partagé autour de cette table. Moi, j'ai envie d'être ici. Ça me plaît d'être ici. Donc ces occasions-là, effectivement, on peut les créer. Elles sont périphériques à la célébration dominicale, mais en tout cas, moi, j'en suis friand. Et je ne me défausserai pas. À chaque fois qu'il y aura l'occasion, je serai là.
Ça reprend cette question de l'Assemblée. Comment aider les baptisés qui n'ont pas reçu d'enseignement religieux ou qui s'en sont très largement éloignés après leur première communion, par exemple, à retrouver cette présence divine en eux? Donc, en ce sens, vous disiez il faut retrouver cette réunification entre la vie quotidienne et la vie spirituelle. Vous parliez des rogations, des processions du Saint-Sacrement. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres idées? Est-ce que vous, peut-être Laurent et Vincent, vous avez été témoins de... Vous parliez de cette table ronde, mais est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres exemples pour essayer d'accéder à cette réunification?
Alors, je ne sais plus de qui est cette citation, mais si vous cherchez sur Google, vous allez trouver l'auteur. C'est un curé, en tout cas, qui a dit... Ne parle de Jésus qu'à celui qui te le demande. mais vis de manière à ce qu'on te le demande. Et ce qui, moi, me séparait de l'Église fut un temps, c'est mon mental. Et à chaque fois qu'on essayait de me convaincre que j'avais tort par le biais du mental, alors là, c'était peine perdue. J'étais complètement réfractaire. J'allais toujours trouver un argument qui allait aller à l'encontre de celui qui essayait de me convaincre que Dieu existait, etc. Par contre, quelqu'un qui vit sa foi avec sincérité, qui respire, qui incarne une paix intérieure, ben, ça m'a toujours touché, même quand je me croyais athée. Et je me disais, mais waouh, il y a une espèce de rayonnement chez cette personne. Il y a quelque chose d'absolument magnifique qui me touchait malgré moi, malgré toutes mes carapaces intellectuelles, malgré ma rationalité qui me disait non, 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 c'est pas possible scientifiquement, gna, gna. Toutes ces mascarades, toutes ces idioties que je me racontais à moi-même. Et ben, la foi vécue venait me transpercer toutes mes carapaces, en fait. Donc moi, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui a la foi, ben, qu'il ou elle la vive le plus sincèrement possible, et ça renverse toutes les montagnes des a priori, et j'en avais beaucoup. Et les gens qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné sur ce chemin-là, c'est des gens qui n'ont pas cherché à me forcer intellectuellement. Ils ont respecté mes a priori. Mais par contre, ils incarnaient une telle puissance, un tel amour, que j'étais désarmé face à eux, et que je crois que c'est eux qui m'ont aidé à avancer.
Mmh. Vincent, vous vouliez réagir ?
Oui, moi j'ai l'exemple, enfin j'étais déjà redevenu pratiquant, mais voilà, dans mon travail est arrivé un nouveau collègue, et lui il m'avait complètement bluffé, parce que bon, je travaillais dans une maison d'édition qui n'était pas confessionnelle, mais qui était plutôt catho-friendly, mais bon, voilà. Donc, si je disais que j'étais catho, ça allait, quoi, on n'allait pas me... Et lui, il est arrivé, mais j'aurais presque à mettre les deux pieds sur la table en disant « Moi, ce week-end, voilà, j'ai animé la messe et tout, machin. » Mais d'une façon, une décontraction. Mais pour lui, c'était juste normal. C'était sa vie, c'était ce qu'il avait fait. On lui pose la question, il répond. Et moi, j'étais voilà, vraiment bluffé par cette capacité tranquille de dire, ben, de faire comprendre voilà, « Je suis catho, c'est ma vie, et c'est tout. » Et ça m'a édifié. Et oui, ce que je trouve important aussi de dire, c'est, je suis tout à fait d'accord avec vous, mon père, si on met trop la focale sur l'Eucharistie, on va perdre trop de gens au premier abord. Par exemple, voilà, il y a un an, au Congrès Mission à Paris, il y avait eu un débat très intéressant entre Fabrice Hadjadj et le père d'Ardemar, Adrien, qui fait de l'apostolat sur YouTube. Alors, c'était un débat très intéressant, sympathique, un peu de débat de sourds, parce que, a priori, Fabrice Hadjadj est contre le virtuel, et le père disait, bon, ben voilà, après, c'est mon job, voilà, donc, il faut quand même que je le fasse, et c'est important, je pense que ça existe, et je pense qu'il a raison aussi. Mais le vrai débat, c'était, et après ? Voilà, tu fais une super vidéo, il y a des gens qui se disent, waouh, c'est intéressant, et maintenant ? Et pour lui, enfin, je ne critique pas, mais je pense que ça représente une certaine mentalité parmi les chrétiens en ce moment, c'est il faut l'amener à l'Église. Mais c'est peut-être trop vite. Amenons-le, par exemple, à la veillée à la cathédrale hier soir, il ne va rien comprendre. Il faut des portiques, il faut réussir à accompagner ces gens-là qu'on touche. Mais pas nécessairement par tout de suite la pratique, etc. Alors qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être si voilà quelqu'un vient me voir et d'où voilà quelqu'un m'a parlé de Jésus, tout ça, ça me touche. Que faire ? Peut-être simplement prendre un café avec lui, lui proposer de l'inviter pour lui lire, commencer à lire avec lui l'Évangile. L'amener dans une église pour qu'il connaisse le lieu, pour lui expliquer ce que c'est que la petite lumière, enfin des choses très très basiques. Peut-être pour lui dire, si tu veux porter quelqu'un dans ton cœur, tu peux déposer ça voilà, en mettant un cierge, etc. Et y aller progressivement. Le parcours de catéchuménat pour les adultes, c'est pas tout de suite. On n'amène pas tout de suite quelqu'un. Ça prend plusieurs années, 3 ans. Donc aussi, il faut respecter cette temporalité, je pense.
Respecter cette temporalité. Et alors, Laurent, Laurent Winsbach, vous suscitez beaucoup de questions dans la salle. Comment pouvez-vous transmettre le Christ en tant que missionnaire sans bénéficier de la présence du Dieu vivant dans l'Eucharistie ?
Je l'ai déjà entendu cette question, non ?
Oui, pardon, c'est pas la bonne. Quand le combat spirituel est fort, n'avez-vous pas besoin de la communauté pour trouver la paix et prendre de justes décisions ?
Alors j'ai en permanence besoin de l'autre, des autres, oui. Tout seul, je n'y arrive pas. J'ai accepté d'être démuni si je suis seul. Donc j'ai besoin de l'autre, et d'ailleurs c'est ce que Jésus nous dit, hein, dès que vous êtes deux ou trois réunis en mon nom, je suis là avec vous. Donc dès que l'autre, dès que mon frère ou ma sœur est avec moi, quelque part le Christ est là aussi. Si je reste tout seul dans mon coin, non, ça n'est pas possible. Donc sur ce plan-là, je suis complètement d'accord que j'ai besoin de la communauté. Après, dès qu'il y a un autre, c'est une micro-communauté qui commence à se créer. Cet autre peut être un chrétien, mais il peut aussi être une personne athée. C'est quand même un autre. Et c'est ce qui me touche, moi, dans les évangiles. C'est le nombre de fois où Jésus met en avant des êtres humains qui n'appartiennent pas à la communauté juive. Ce ne sont pas des brebis d'Israël, qu'elles soient perdues ou non. Et pourtant, il met en avant le centurion chez lequel il n'a jamais vu une telle foi, la Samaritaine, etc. Donc tout autre en fait porte en lui le Christ. Et aujourd'hui, moi, mon cheminement, c'est quand je parlais tout à l'heure d'amnésie, ben avant je le voyais pas ça. Avant tout autre pour moi n'allait pas forcément me dire tiens Jésus est là. Là maintenant, ben, c'est le cas. Donc oui, j'ai besoin de la communauté. C'est plus forcément que la communauté, mais je m'en tiens pas à distance en disant je ne veux plus y aller, hein. Je ne fuis pas à la messe. Mais c'est vrai que je suis beaucoup moins pratiquant qu'avant, parce que quelque part, la communauté, l'autre, je le trouve aujourd'hui partout et à tout instant quasiment.
Maxence, quand Laurent et vous aussi, Vincent, vous parliez de communauté. Je serai présent au milieu de vous quand vous serez deux ou trois réunis et en mon nom. Rejoindre une communauté, est-ce que ce n'est pas nécessaire pour se nourrir de l'esprit et se sentir investi de la mission ?
Oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire. La communauté, elle peut être multiforme. Ça peut être une paroisse, ça peut être un groupe d'étudiants chrétiens, ça peut être une famille, ça, évidemment. Enfin, donc ça peut être très multiforme, et je crois que c'est nécessaire. Ça peut être deux ou trois, ce qu'on fait. On a un peu plus que deux ou trois, là. C'est nécessaire, cette appartenance à une communauté. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur la question du témoignage tout à l'heure, en disant, et ça rejoint un peu la question de la communauté, en fait. C'est la question du rapport entre les moyens qui peuvent être extrêmement divers. Je veux dire, quand on regarde la vie des saints, c'est quand même très édifiant. Quand on regarde la vie des saints, quand on voit les moyens que Jeanne d'Arc a pris, ceux de Jean Bosco, ceux de Mère Teresa ou de Bernadette Soubirous, je veux dire, on a juste tout. Enfin, on se dit qu'en termes de moyens, on a une liberté incroyable. La question, c'est pas tant des moyens, c'est la question qui est en dessous. C'est d'où ça vient. Et évidemment, Mère Teresa, Sainte Bernadette ou Jean Bosco, ils n'ont pas des psychologies meilleures que les nôtres. Ce n'est pas des gens qui ont des charismes incroyables ou qui nécessitent une force. Et c'est la question qui parcourt tout l'évangile pour Jésus. D'où ça lui vient ? D'où ça vient cette autorité ? D'où viennent ces gestes ? C'est la question qui parcourt tous les actes des apôtres. D'où ça vient ? L'espèce d'assurance de Saint-Pierre. D'où ça lui vient. Et si on lit l'histoire de l'Église, c'est la question du témoignage. Et en fait, d'où ça vient la paix de cette personne que vous rencontrez et vous dites, mais en fait, ça désarme tout en moi, mes jugements, mes constructions. Et je trouve que c'est la plus forte question, d'où ça vient. Et c'est à la fois une question qui est très, très profonde, qui nous interroge sur notre attachement finalement au Christ et à la grâce, à la vie de la grâce qui n'est pas forcément sensible. Et puis c'est aussi une question de je crois, le témoignage et la communauté de la qualité de mon regard. Je suis frappé de voir, alors je suis de la communauté Saint-Martin, mais je suis frappé de voir Saint-Martin, le nombre d'églises qui portent ce nom en France et en Europe, le nombre de vitraux qu'on a dans les églises avec ce manteau partagé. Et en fait, il y a un moment, avant même de rentrer à la communauté Saint-Martin, je m'étais dit, Bon, c'est très généreux ce qu'il a fait Saint-Martin, c'est sympa, il a donné la moitié de son manteau, très bien. Ben, ça reste quand même hyper simple comme geste, et j'hallucine de la disproportion du rayonnement de ce geste-là. C'est-à-dire, il n'a pas créé une entreprise incroyable d'évangélisation, etc. Enfin, tout est parti, il a juste déchiré sa cape et il l'a donné à un pauvre. Je suis à peu près persuadé qu'ici, la plupart, on a déjà posé un geste de charité de cet ordre-là. Enfin, je diminue pas la charité de Saint-Martin, mais en fait, c'est quand même assez banal comme geste. Et il y a eu un rayonnement et une fécondité à ce geste qui est délirante, enfin, qui nous dépasse, qui est l'ordre de la grâce, quoi. Et c'est parti du fait qu'il a regardé ce pauvre. Un peu, c'est le bon samaritain, c'est Mère Teresa qui entend ce pauvre dans la gare dire « j'ai soif ». Il dit vraiment « j'ai soif ». Et ça bouleverse sa vie. Et donc, il y a une relation de la communauté en amont avec mon attachement au Christ et en aval dans mon regard, dans la qualité de mon regard. Et souvent, les œuvres d'évangélisation et de témoignage, en fait, elles sont hyper simples. Elles ne sont pas faciles à anticiper parce que c'est de l'ordre d'un débordement de charité. Mais souvent, elles rayonnent par leur simplicité, en fait. D'où l'importance de nos petites œuvres de charité et qui nous mettent en relation les uns avec les autres, en fait. C'est deux petites choses, mais je me dis sur la dimension de l'évangélisation, à la fois on a un panel très large de moyens et en même temps souvent ça reste assez simple, et la simplicité c'est la trace de Dieu.
La simplicité c'est la trace de Dieu, et c'est ce dont vous témoignez, Vincent, avec ce collègue qui arrive le lundi matin et qui dit bah voilà, j'ai fait chanter à la messe. En fait, c'est ne pas avoir peur de parler de son quotidien. Et c'est comme ça que ça peut toucher.
Oui, tout à fait. Pour reparler de ce collègue, c'est vrai que c'était ce qui était désarmant, il portait aucune revendication de quoi que ce soit. C'était pas regardez, je suis catho, tout ça, mais pas du tout. C'était transparent comme un vitrail, quoi. Voilà, voilà, la lumière traverse. Voilà. Vraiment, c'est vrai que quand on a la chance de rencontrer des croyants de cet acabit, c'est sûr que ça. Ça aide beaucoup dans son propre cheminement, mais comme vous disiez aussi, faut pas rêver de construire l'Empire State Building, c'est déchirer son manteau pour un soldat romain, ou pour nous, qu'est-ce que c'est? C'est donner un parka quand il fait froid à quelqu'un. C'est suffisant.
Une question qui a été posée presque au début de cette table ronde et à laquelle nous n'avons pas encore répondu. Comment rendre nos églises plus accueillantes? Comment donner envie au peuple des baptisés de rejoindre nos communautés? Est-ce qu'il y a des idées, des outils? Alors, vous avez parlé de ces traditions populaires, de ces dévotions, mais est-ce que, par exemple, vous, Laurent, est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous attendez et qui vous ferait rejoindre une communauté?
J'ai cessé d'attendre. J'ai compris que c'était pas une voie qui m'était profitable. Non, je peux partager une expérience, une expérience qui a lieu dans le département de l'Ariège où j'habite. Il y a quelques années a été mise en place une messe diocésaine. C'est une messe qui a lieu le dimanche soir, qui est animée à tour de rôle par différents prêtres du diocèse de l'Ariège. C'est une messe dans laquelle la place au chant est plus importante, on va dire, qu'une messe paroissiale habituelle. Et c'est une messe dans laquelle il y a une originalité aussi, qui est que avant l'homélie, le prêtre va poser une question à l'auditoire, aux paroissiens, aux personnes qui sont présentes, et va inviter chacun à se regrouper avec trois ou quatre frères et sœurs qui sont autour de là pour partager comment est-ce que dans leur vie ce passage de l'évangile ou cette thématique va résonner, va leur parler. Et ce que j'ai observé, c'est que ça amène à vivre véritablement une fraternité qui, à mon sens, peut séduire des personnes qui se seraient éloignées de l'Église et qui, c'est vrai ce que disait Vincent tout à l'heure, au début quand on débarque et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il faut se lever, se rasseoir, on ne comprend pas ce que les gens disent à un moment, tout le monde fait et on ne sait pas ce que c'est. Donc oui, effectivement, ce genre de choses, ça permet d'impliquer, ça permet, on parle beaucoup aujourd'hui d'une société qui serait inclusive, qui serait accessible à tous. Et ben, le fait de pouvoir échanger entre nous à un moment donné, sans que ça soit selon un rythme millimétré qu'on ne comprend pas toujours quand on n'a pas l'habitude, je pense que c'est le genre de choses qui peut favoriser le retour de personnes qui ne sont pas hostiles, qui sont curieuses, mais qui sont peut-être parfois, c'est vrai, un petit peu désarçonnées parce qu'elles se disent « Ah ben moi, j'y comprends rien, je connais pas, j'ai pas ma place ». Là, ça prouve à n'importe quelle personne qui assiste à cette assemblée, qu'elle soit croyante ou non, sa parole a la même valeur que celle d'un autre ou d'une autre. Et du coup, la personne, je pense, se sent adoptée dans cette communauté, au moins pendant cet espace-temps. Et ça peut lui donner, je crois, envie de revenir.
Vincent ?
Je suis vraiment à 100% d'accord avec vous. Vraiment, cette question voilà, du taux de pratique, est-ce qu'on est à partir de quel... Je vais caricaturer, mais à partir de combien de dimanches par an on peut dire qu'on est vraiment catho ? Je crois que c'est vraiment stratégique. Parce que si on se concentre trop voilà, sur la pratique régulière hebdomadaire, voilà, on va mécaniquement s'amenuiser parce que c'est plutôt des personnes âgées qui font ça, etc. Les jeunes, c'est vrai que 80% des Français sont baptisés au global, mais il y a une surreprésentation des personnes âgées par rapport aux jeunes. Les jeunes le sont beaucoup moins. Donc vraiment, je crois qu'il faut pas qu'on... Un des dangers que je vois, c'est construire une église à deux vitesses. Tout le monde doit se sentir bien qu'on aille à la messe tous les dimanches ou qu'on y aille une fois par an. Même qu'on rentre dans une église pour mettre un cierge une fois par an, la personne vient. Et c'est son église aussi. Et je crois que ça, la fraternité, c'est capital, c'est stratégique également, c'est au centre de l'église. Faut pas de jugement sur ces gens-là, on est leurs frères également. Et peut-être, si voilà, on est témoin de ça, le petit geste missionnaire, c'est peut-être pas de déchirer le manteau, mais d'aller la voir et de lui demander, vous êtes là, moi je suis là par hasard, c'est pas l'habitude que je sois là, mais vous venez souvent, etc. Essayer de louer le dialogue comme ça, tout simplement, pour que, voilà, on est chrétien parce qu'on est baptisé. Et c'est un sacrement qui marque la personne pour la vie. Un sacrement à caractère, on est imprégné de, voilà, jusqu'à la fin, même si on ne met plus les pieds dans une église, on est marqué par c'est le sacrement du salut. Et j'en parlais avec un journaliste qui fait beaucoup d'évangélisation de rue et qui me disait qu'il était... Il était frappé par le fait que quand voilà, il allait voir les gens, est-ce que tu connais Jésus, et que des personnes mais qui étaient baptisées mais qui n'avaient plus pratiqué depuis des années, qui connaissaient plus rien de la foi, ils avaient une sensibilité, ils comprenaient beaucoup plus rapidement, beaucoup mieux son discours que des personnes qui ne l'étaient. Et pour lui, c'est un des signes de l'efficacité du baptême. Je crois qu'on peut s'appuyer là-dessus, vraiment. Tu es baptisé, tu es mon frère dans le Christ. Et ça, ça me semble non négociable. Et c'est ton église. Mon église est ton église. Nous sommes l'église du Christ. Voilà.
C'est parfait pour une conclusion. Effectivement, revenir sur ce baptême qui est le point de départ et qui infuse en fait toute la vie. Dont Maxence, est-ce que vous voulez... peut-être conclure sur cette importance du baptême.
Oui, je conclurais volontiers sur la question du regard de Dieu et sur le regard de Dieu qui voit plus loin, entre guillemets, que notre propre regard. Et une chose qui me marque dans ce regard de la bonté de Dieu sur nous, c'est le témoignage de saint Paul. Quand saint Paul écrit dans toutes ses lettres, sauf une, il commence par longtemps rendre grâce à Dieu pour la foi des fidèles à qui il écrit. Et c'est assez déconcertant, parce que quand on lit la lettre aux Corinthiens, et qu'il dit « je rends grâce pour votre foi, votre charité, etc. », et qu'après, il va les reprendre en serrant un peu la vis, en disant vous faites n'importe quoi, c'est le bazar à la messe, il y a des situations de scandale parmi vous, etc. En fait, il a quand même pris le temps de dire je bénis le Seigneur, je pose un genou par terre pour votre foi, votre charité, votre espérance, etc. Il y a une lettre dans laquelle il ne le fait pas, signe que ce n'était pas automatique et que ce n'est pas une formule de politesse, c'est la lettre aux Galates, où il commence en disant « stupide de Galates ». Donc là, il a un message assez fort et il y va cash. Mais n'empêche, ça, je me suis souvent dit ça en me disant bah, « tiens, en prédication, quelle est la dernière fois où j'ai verbalisé mon action de grâce pour la foi des fidèles, y compris de ceux qui viennent poser un cierge de manière invisible dans une église ?» Voilà. Et peut-être qu'on a, voilà, c'est peut-être une croissance dans la foi, de me dire comment Dieu regarde les personnes baptisées, comment Dieu regarde ses fils, ses filles. Et est-ce que, et bien sûr que j'ai tout mon désir profondément qu'ils viennent à la messe le dimanche et qu'ils se nourrissent de l'Eucharistie, et c'est mon plus grand, c'est pour ça que je suis prêtre, et c'est un grand désir. Mais en même temps, est-ce que avant de les attirer et d'essayer de transmettre ça, est-ce que je peux poser un genou par terre pour rendre grâce pour leur foi, leur prière qui s'exprime comme ça, comme ça, comme ça, pour leur charité?
Merci beaucoup à vous trois, Vincent Morche, dont Maxence Bertrand et Laurent Winsbach, d'avoir participé à cette table ronde. Je signale vos derniers ouvrages qui sont proposés au village, à l'école Saint-Stanislas. Pour vous, Vincent, « La force de dire non, petite spiritualité de la résistance » aux éditions Salvator, et dont Maxence Bertrand, vous avez publié, je vais dire, les deux derniers livres, « Dieu ou le monde, l'engagement chrétien » aux éditions du Cerf, en 2021, et puis Bernadette, celle que personne n'attendait, aux éditions Première Partie, un livre plutôt à destination des jeunes. Merci beaucoup.